Et voici le moment de retrouver Portrait de femme de notre matrimoine par Jacqueline Engrave. Après une courte interruption due aux fêtes de fin d'année, voici donc une nouvelle année qui commence. Bonne année, meilleurs vœux Jacqueline pour 2022.
Oui, merci beaucoup Odile. Je souhaite moi aussi une bonne et heureuse année à Fréquence Mistral et à ses journalistes et à vous Odile tout d'abord. Et bien sûr à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Merci de m'accueillir à nouveau en 2022.
Alors cette année, vous allez nous démarrer donc cette année avec un nouveau portrait de femme, bien sûr. De qui s'agit-il ?
Alors c'est le portrait d'une reine de France, en fait reine de France et de Navarre, Marguerite de Valois. Marguerite de Valois, une reine au cœur des guerres civiles. Elle est née à Saint-Germain-en-Laye en 1553 et elle est la dernière fille de Henri II et de Catherine de Médicis. Elle est la sœur des trois derniers rois du nom de Valois qui régneront successivement sur la France, François II, Charles IX et Henri III. Mariée en 1572 avec le protestant Henri de Navarre, elle devient reine de Navarre, puis reine de France en 1593 lorsque son époux accède au trône sous le nom de Henri IV. On connaît bien Henri IV. Son mariage devait contribuer à la réconciliation entre les catholiques et les protestants, mais il fut au contraire une des causes de ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Barthélemy et des guerres civiles et religieuses dévastatrices qui s'en sont suivies. Alors, la parenthèse sur qu'est-ce que c'est que la Saint-Barthélemy. Sous le règne de Charles IX, donc frère de Marguerite, après la régence de Catherine de Médicis, leur mère, le roi, cédant à la pression des catholiques et sous l'influence de sa mère, ordonna le massacre de tous les protestants à Paris dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Le 24 août est le jour de la Saint-Barthélemy. C'est pour ça qu'on l'appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. Et faisant 3000 morts, exterminant un grand nombre de chefs protestants, les survivants se réfugièrent d'ailleurs dans le sud-ouest de la France et continuèrent leur combat. Les 8 guerres civiles, dites guerres de religion, qui suivirent, durèrent près d'un demi-siècle. Elles se déroulèrent sous le règne de Charles IX, Henri III, et se terminèrent sous le règne de Henri IV, l'ex-mari de Marguerite, par l'édit de Nantes, un édit de tolérance envers les protestants. Ces guerres eurent un caractère de sauvagerie atroce. Des deux côtés, on se mit à égorger, pendre, brûler sans pitié. L'idée de tolérance était étrangère, hostile même, à presque tous, protestants et catholiques. Dans ce contexte de tensions politiques dues aux guerres, la vie conjugale n'était pas heureuse. Marguerite et Henri de Navarre se séparèrent bientôt. Chassée de la cour par son frère Henri III, elle tint à Nérac. Nérac, c'est une petite ville près d'Agen, une cour brillante. Mais malmenée par son frère, comme on vient de le dire, rejetée par un mari léger et opportuniste, elle choisit en 1585 la voie de l'opposition au pouvoir royal en se ralliant à la Ligue catholique. Pour cela, elle fut enfermée au château de Husson, en Auvergne, dans la haute vallée de l'Allier, pour ceux qui connaissent, dans un exil de la cour de France qui dura 20 ans. Son mariage avec Henri de Navarre, donc Henri IV, fut annulé par le pape de son plein gré en 1599. Toutefois, elle conserve son titre de reine et de duchesse de Valois. Henri IV, lui, se remaria avec Marie de Médicis, dont il eut 4 enfants. En 1605, elle revient à Paris et elle joue alors un rôle déterminant dans la vie culturelle de la cour. Femme belle et intelligente, mécène reconnue pour ses goûts, autrice de mémoires, de discours, de poésie, mais aussi femme politique intensément mêlée à la vie mouvementée du royaume de France entre 1570 et 1615, date de sa mort, elle est devenue l'objet d'une légende, puis au XIXe siècle, d'un mythe, celui dit de la reine Margot, entre guillemets, sobriquet inventé par l'écrivain Alexandre Dumas et qui a fait florès depuis. Mais jamais de son vivant, Marguerite de Valois n'a été surnommée la reine Margot. Alexandre Dumas est un écrivain de fiction, pas un historien. Ce surnom, à notre avis, est à éviter. Donc, Marguerite de Valois a beaucoup écrit. Son œuvre est grande et importante. Premièrement, ses mémoires. Mémoires de la reine Marguerite. C'est le plus beau texte de Marguerite de Valois et à coup sûr le plus célèbre. Écrit pendant l'exil, alors qu'elle s'ennuyait dans sa forteresse auvergnate, elle décida d'assumer elle-même le récit de sa vie. C'est un texte qui se lit comme un roman, relatant les grands événements politiques de la période, la Saint-Barthélemy, comme on vient de le voir, et puis les différents complots qui ont eu lieu ensuite, et aussi les épisodes anecdotiques de la vie quotidienne de la cour. Alors, deuxièmement, autre œuvre, le discours sur l'excellence des femmes. C'est une longue lettre rédigée à la fin de sa vie pour répondre aux propos misogynes d'un jésuite, le père Loriot. C'est un petit manifeste féministe fort spirituel d'une brièveté remarquable comparée à ses autres œuvres. Enfin, toute sa correspondance, au moins 500 lettres écrites entre 1569 et 1614, juste avant sa mort. Alors, Hélène Viennot, qui est une enseignante et chercheuse émérite, a publié chez Payot en 1993 « Marguerite de Valois, histoire d'une femme, histoire d'un mythe ». De la même autrice, un volume est à paraître en 2022, cette année, un classique Garnier, 16 études sur Marguerite de Valois, son œuvre, son temps, son mythe. Je le dis pour celles et ceux que ça intéresserait. Pour terminer, pas tout à fait, une citation de Marguerite. « Ceux qui les traitent, entre parenthèses, les femmes, avec moins de rigueur, les comparent aux mules et aux chèvres, et font exactement convenir leurs humeurs capricieuses aux fougues de ces extravagants animaux. À quoi ils ajoutent une multitude de rébus et de proverbes, autant ridicules qu'ils sont indignes des femmes. » Alors, au sujet de la place des reines dans l'histoire de France, je voulais ajouter un petit additif, si vous permettez. Donc, elles n'ont pas, en fait, de fonction, les reines de France. Elles n'ont qu'un titre. Et pourquoi ? Cette place est traitée à partir d'une loi unique en Europe, la loi salique. Qu'est-ce que c'est que cette loi salique ? Ce terme vient du nom d'un peuple germanique qui donna son nom à la France, les Francs saliens. Dans le recueil des lois des Francs saliens, une disposition excluant les femmes de la succession à la terre a été interprétée à partir du XVe siècle pour justifier l'ordre de succession au trône de France exclusivement de mâle à mâle, à l'exclusion des filles. Donc la loi salique excluait les femmes de la succession au trône. Elles ne pouvaient être que régentes pendant la minorité de leur fils, telle, on vient de le voir, Catherine de Médicis pendant la minorité de Charles IX, ou plus tard Anne d'Autriche, par exemple, la mère de Louis XIV. Résultat, aucune grande figure féminine de notre histoire qui eut un rôle comparable à celui de la grande Catherine, impératrice de toutes les Russies, par exemple, de la reine Victoria d'Angleterre ou de Christine de Suède, qui, elles, ont exercé véritablement la fonction de monarque et en ont eu les pleins pouvoirs. C'est pendant la Révolution que la règle a acquis force de loi, puisqu'elle a été inscrite dans la première constitution d'octobre 1989, mentionnant dans son article 3, je cite, « l'exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leur descendance ». Cette disposition discriminatoire a figuré ensuite dans toutes les constitutions monarchistes et impériales, tandis que les constitutions républicaines parlaient, elles, au masculin, pour les seuls hommes, jusqu'en 1944. Le refus de la France de revenir sur son histoire, sur le fait qu'elle a été pendant des siècles la championne de la lutte contre la gynécocratie, l'empêche de solder ce solde du passé. En 2017, malgré les progrès enregistrés depuis la campagne pour la parité homme-femme entreprise à la fin du XXe siècle, la, entre parenthèses, patrie des droits de l'homme, porte toujours bien son nom. Elle demeure un sanctuaire pour la perpétuation de la suprématie masculine. C'est pas moi qui le dis, c'est Eliane Viennot, la chercheuse émérite précitée. Alors, j'ai le temps de citer mes sources ?
Toujours.
Toujours. Bon, alors, la première de toutes, c'est l'exposition Notre matrimoine du journal Clara Magazine de 2019. Ensuite, de Benoît Groult, un petit livre, Ainsi soit Olympe de Gouges, en 2013, édition Grasset, donc l'introduction de ce petit livre. Ensuite, Histoire de France du XVIe siècle à 1774 de Mallet et Isaac, que les personnes de ma génération connaissent bien, librairie Hachette. Et puis, Les repères du temps de Thierry de Lauriston, 1988. Voilà. Merci.
Jacqueline, merci et à la semaine prochaine.
Oui.
Sur une bonne année.
Encore bonne année à toutes
voilà.
Et à tous.
Au revoir.
Au revoir.